un podcast France Culture.
Au Louvre, au cabinet des dessins, attardons-nous sur un chef-d'œuvre, le très grand pastel accompli par Maurice Quentin de la Tour, le portrait de la marquise de Pompadour, maîtresse puis amie et conseillère du roi. C'est le portrait de la femme la plus influente de France à l'époque où cette œuvre fut réalisée. Une mule qui en croise une autre apparaît à peine sous une vaste robe soyeuse, rythmée par des rameaux fleuris. Assise, tenant une partition, la marquise de Pompadour, dont le corps gracieux anime cette vaste étoffe, tourne son visage vers la gauche, comme pour accueillir d'un regard un prestigieux visiteur. Autour d'elle, un décor où triomphe le nouvel esprit rocaille manifeste le goût des arts et les partis pris du modèle. Une guitare posée sur un sofa, des livres soigneusement décrits, des gravures, cartons à dessin, map-monde, peintures et autres accessoires composent un état d'esprit et une volonté de participer aux élans du monde. La marquise, qui souhaitait un portrait qui lui ressemble, s'en remit à Maurice Quentin de la Tour et dut patienter 8 ans avant de recevoir le chef-d'œuvre du plus grand pastelliste du royaume. Que s'était-il passé pendant cette longue période de tourment pour l'artiste, d'impatience pour son modèle? Quelle méthode, quels essais fit le portraitiste? De quelles péripéties son œuvre fut-elle victime pendant cette longue période? Et surtout, quels sont les messages discret que transmet ce portrait, peut-être éclairé par d'autres enjeux plus politiques que celui de sa beauté. Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Maîtresse royale ou femme des Lumières, le portrait de la marquise de Pompadour par Maurice Quentin de la Tour.
Écoutons Xavier Salmon, directeur du département des arts graphiques du Musée du Louvre et auteur de l'ouvrage de référence sur notre artiste, nous raconter l'histoire du plus célèbre pastel du XVIIIe siècle français.
Maurice Quentin de la Tour est sollicité par la famille royale tout simplement parce que, au moment où Louis XV cherche à obtenir un portrait ressemblant, il est l'artiste considéré comme celui qui a ce talent de saisir la réalité et, il le disait lui-même, de descendre au plus profond des êtres pour les emporter tout entiers. Et effectivement, il va fixer les traits de Louis XV, puis ceux de son épouse Marie Leczinska, et immédiatement, ces pastels vont être considérés comme les œuvres les plus fidèles et vont s'imposer auprès des autres peintres qui vont devoir travailler d'après le visage peint par la Tour pour livrer leur propre portrait. Donc lorsque Madame de Pompadour arrive à la cour de Versailles en 1745, légitimement, elle va se tourner vers la Tour pour, à son tour, obtenir le portrait tant désiré, parce qu'elle est confrontée à une difficulté, c'est toujours cette histoire de la ressemblance.
Mais peut-être que ce n'est pas le premier artiste auquel elle s'adresse, elle doit réfléchir à d'autres possibilités.
Alors, lorsque elle entre dans l'orbite de la cour, après avoir épousé donc le Normand d'Étiol, elle est reçue maîtresse officielle en 1745 et immédiatement, elle va solliciter un certain nombre d'artistes. On ne connaît aucun portrait de Madame de Pompadour antérieur à 1745. Et le premier qu'elle va solliciter, c'est le peintre le plus célèbre de l'époque, qui est Jean-Marc Nattier, et qui va peindre donc un portrait où elle est représentée en Diane. Alors c'est à la fois la mode du temps, ces portraits travestis, mythologiques, qui permettent de mettre en valeur la ligne d'une épaule, le haut d'une poitrine, mais c'est aussi un portrait qui évoque le lieu de la rencontre, puisque Louis XV a fait la connaissance de Madame d'Épiole en forêt de Sénart à l'occasion d'une chasse. Donc, représenter Jeanne-Antoinette le Normand d'Étiole en Diane, c'est en même temps rappeler justement ce lieu de rencontre. C'est aussi l'occasion d'évoquer le travestissement qu'elle avait adopté pour le fameux bal des Ifs en 1745 dans la Grande Galerie de Versailles, où elle s'était déguisée en Diane et où Louis XV, lui-même déguisé en If, va à plusieurs reprises dans la soirée l'approcher pour la courtiser.
Mais il ne s'agissait pas d'un portrait très ressemblant. Elle a fait appel à d'autres, aussi d'ailleurs des peintres à l'huile.
Oui, elle considère que le portrait de Nattier est un joli portrait, mais que ce n'est pas exactement son visage, parce qu'il a ce talent de tromper légèrement la réalité, la nature. Et elle va s'adresser ensuite à Lyotard, elle n'est pas satisfaite. Elle va s'adresser à Boucher, qui va peindre plusieurs portraits de la marquise, et qui sont des œuvres magnifiques, qu'elle aimera beaucoup, mais qui ne sont pas ce qu'elle attend profondément, c'est-à-dire une image réelle, une image véridique.
Le portrait de Boucher est considéré par certains critiques de l'époque comme de mauvais goût. Une insistance sur une robe trop compliquée, un environnement assez étrange. Pourtant, un aspect est intéressant. A-t-il utilisé un portrait fait par Latour pour représenter Madame de Pompadour?
Il est vrai que le portrait que Boucher montre au salon en 1756, donc un an après que Latour ait finalement présenté son grand pastel, présente un visage qui est un visage très très proche de celui qu'a peint Latour. Et comme Latour a mis de nombreuses années à livrer le pastel, et que pour le livrer, il avait exécuté un certain nombre d'études préparatoires, il est possible qu'il ait prêté l'une de ses préparations à Boucher, parce que Madame de Pompadour, impatiente, finalement, avait sollicité Boucher pour peindre ce grand tableau qu'elle souhaitait pouvoir montrer au salon.
Il se trouve qu'un peintre, à l'huile en particulier, exige beaucoup plus de son modèle qu'un pastelliste. C'est-à-dire qu'il semblerait que le pastelliste puisse faire prendre à son modèle des poses plus rapides, insister moins. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le pastel, à cette période-là, a tellement de succès?
Il est vrai que le pastel, depuis le début du XVIIIe siècle, grâce à un pastelliste qui aujourd'hui est méconnu, mais qui a été un des très grands pastellistes du règne de Louis XIV, qui est Joseph Vivien, et après, du fait du passage à Paris de Rosalba Carriera, qui va connaître un immense succès, eh bien, est une technique qui est à la mode. Au point même, d'ailleurs, que les peintres à l'huile vont lancer des campagnes contre le pastel, en rappelant que l'huile est pérenne, etc., alors que le pastel a ce côté volatile, fragile, et a priori résiste moins au siècle. Mais c'est une technique qui, pour la clientèle, est une technique qui appelle une séance de pose beaucoup plus courte. Parce que le portraitiste à l'huile doit, dans un premier temps, en présence de son modèle, peindre les traits du visage. Et peindre à l'huile, ça nécessite des temps de séchage que le pastel ne présente pas. Et c'est ce qui va faire en grande partie le succès de cette génération de pastellistes du XVIIIe siècle.
Je voudrais que l'on écoute la façon dont de Latour représente le regard. Cela est formulé d'une façon remarquable dans un livre récent et je voudrais qu'on se rende compte de ce que c'est le souci de la ressemblance.
Comme dans tous les portraits de la même époque, les yeux établissent ce lien qui nous convainc que l'être est de chair et de sang. À les observer de très près, on reste confondu par le soin avec lequel ils sont traités. Rarement, sur une si petite surface, les portraitistes ont utilisé autant de couleurs afin d'être les plus fidèles possibles à la réalité. Le point de gouache blanche est posé un peu au-dessus de la pupille. L'iris est du ton réel de l'œil. Il est cerné d'un trait plus sombre qui met en valeur sa couleur. La sclérotique, formant la cornée transparente, est chargée de blanc à l'aide de la gouache ou du pastel blanc mouillé et écrasé, rendant ainsi la brillance de l'humidité. Tout autour se succèdent les lignes des paupières, parfois piquées de cils et celles des sourcils. Les plis et les creux sont traités en brun. Les reliefs accrochent la lumière à l'aide de rose et de gris clair. À ces couleurs, l'artiste ajoute encore du jaune, un gris bleuté, un brun sombre, un brun clair, un trait de bleu. Tout cela en une combinaison chromatique qui, à distance, rétablit les passages d'un ton à l'autre, les mêle et fait de ses yeux peints, par Maurice Quentin de la Tour, de merveilleux fragments d'existence. Aucun portraitiste travaillant à l'huile ne parviendra à une telle science, allant jusqu'à reproduire le reflet cornéen et celui sur la caroncule, partie interne de la fente palpébrale. Aucun autre pastelliste n'accordera autant d'attention à cet élément de l'anatomie.
Les yeux décrits sont ceux d'un pastel de Delatour, de Maurice Quentin Delatour, peint vers 1730, une femme anonyme, et non pas les yeux de Madame de Pompadour. Car Madame de Pompadour, pendant ce temps-là, attend son tableau, et pendant presque 8 ans, il va y avoir un délai extraordinaire. Que se passe-t-il ?
Effectivement, la commande est probablement passée en 1747, et en 1748, on a le témoignage de Madame de Graffigny à son ami de Vaux qui dit qu'elle a eu la chance de rencontrer la tour dans le cercle de Monsieur de la Pouplinière au château de Passy et qu'elle lui a demandé à voir le portrait de Madame de Pompadour dont déjà tout Paris parle. Et la tour lui aurait répondu qu'il y a eu un accident et qu'il l'a brûlé. Il a détruit l'œuvre qu'il avait exécutée. Et on a ensuite toute une correspondance entre la tour et le marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, où le directeur des bâtiments tente de convaincre la tour de retravailler au portrait, de venir à Versailles pour obtenir des séances de pose de la marquise et de livrer le plus rapidement possible cette œuvre. Alors, le temps s'explique aussi par le fait qu'il s'agit d'un des plus grands pastels peint au XVIIIe siècle, par sa surface, puisque c'est une œuvre monumentale, grandeur nature, et il a besoin donc d'une toile sur laquelle il a marouflé 8 feuilles de papier qui sont rangées de manière horizontale 2 par 2.
C'est du papier bleu.
C'est du papier bleu. Il aime beaucoup travailler sur le papier bleu parce que c'est un papier dont il n'a pas besoin d'éteindre la clarté pour avoir des tons qui correspondent à ceux de la réalité. Et sur ce très grand format, eh bien, il faut travailler minutieusement en plaçant d'abord la silhouette, en collant au niveau du visage une des préparations, c'est-à-dire une feuille de papier sur laquelle il a tracé les linéaments du visage de Madame de Pompadour en sa présence.
Et on en connaît plusieurs.
Il y a 3 études qui ont été léguées par la tour à l'école gratuite de dessin qu'il avait souhaité créer dans sa ville natale de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et ensuite, une fois qu'il a collé cette préparation sur son support de papier, eh bien, il va charger le pastel en couleur. Et ça, c'est un travail long et fastidieux, parce qu'il faut faire attention à ne pas toucher les zones qui ont déjà été peintes. Sinon, forcément, la poudre reste sur le doigt, sur le coude, dans un mouvement malheureux.
Il a été évoqué, lors de la réalisation de ce premier grand pastel, un trait malheureux.
Oui.
Un trait malheureux.
Alors, est-ce qu'il a raté quelque chose ? Et c'était quelqu'un qui était assez insatisfait de ses créations et qui souhaitait reprendre. Diderot trace un portrait assez négatif en disant que c'est quelqu'un de besogneux. Mais c'est vrai que le pastel appelle une technique minutieuse. Et on sait que la tour était myope et qu'il avait besoin de travailler très près de son support. Il dit lui-même dans une lettre à quelques centimètres de son support et que la difficulté, c'est ensuite de regarder son modèle, qui lui est à une certaine distance, et de revenir à la toile et au papier pour transcrire ce qu'il voit. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait eu un geste malheureux Et ensuite, il explique qu'il est très difficile de retoucher un pastel. Effectivement, la peinture à l'huile, vous pouvez repeindre dessus, alors que le pastel, il faut tenter d'effacer à l'aide d'une mie de pain et ensuite recharger en couleur, mais ce qui est très compliqué.
Alors, ce premier pastel aurait été détruit, il aurait fallu reprendre entièrement ce décor très complexe sur lequel on reviendra pour lui proposer enfin ce tableau qui va être exposé en 1755 au Salon.
Il a été très très attendu, donc forcément tout le monde souhaite venir le voir et ça va être une très grande découverte pour le public.
Écoutons ce que dit Pierre Estève, un des grands esthètes, savant, universaliste du XVIIIe siècle, qui d'ailleurs n'est pas tendre.
Ce pastel n'a pas été posé par le peintre d'une façon avantageuse. On aperçoit que les trois quarts de la tête, et il aurait fallu l'avoir en face. Les regards sont perdus. Et cela donne un air de distraction qui ne va pas avec les grâces. La coiffure n'est pas mieux imaginée. Elle est en cheveux relevés par derrière et sans poudre. Quoique la plupart des femmes se coiffent de cette manière, il aurait fallu donner à la tête un ornement plus pictoresque. On dirait que M. de la Tour s'est proposé de faire le portrait d'un philosophe. Ne sait-il pas que la distraction et la négligence des ajustements doivent être évitées lorsqu'on veut représenter une belle femme? Ce peintre habile a eu trop de confiance en son art. Il a cru, mal à propos, qu'il pourrait rendre la nature sous l'aspect le moins favorable, sans lui faire perdre ses agréments les plus précieux. Afin que son hardi projet n'échappât pas aux spectateurs, il a eu le soin de placer sur une table, qui est dans ce tableau, des livres très sérieux. De pareils voisins ne sympathisent pas avec l'agréable. Leur proximité est contagieuse. En présence de l'encyclopédie, on est forcé de prendre un maintien grave et sévère.
C'est ce propos qui est sévère, et peut-être justement à cause de l'environnement de Madame de Pompadour, tout à fait inventé, semble-t-il, à dessein, et on s'interroge pour savoir quel est le programme qu'a pu donner cette grande dame à l'artiste.
Estève est tout à fait emblématique de la manière dont on perçoit un portrait féminin au XVIIIe siècle. La femme ne doit pas avoir de rôle politique. Elle doit être belle et être représentée dans toute sa beauté. Le propos de Madame de Pompadour n'est pas exactement celui-là. Certes, elle veut paraître en femme élégante, avec cette robe absolument extraordinaire à la française, probablement tissée à l'aide d'une soierie lyonnaise, mais elle veut aussi paraître en protectrice des arts, en artiste et en femme sensible aux idées nouvelles. Parce que le fait de présenter le pastel au Salon, donc qui est une exposition publique qui a lieu tous les deux ans dans le Salon Carré du Louvre et qui est ouverte à tous, eh bien, c'est le moment de faire passer un message. Et en l'occurrence, sa situation a évolué à la cour. Depuis 1751, elle n'est plus la maîtresse. Elle est la conseillère, elle est l'amie, elle est la mécène des arts. Et elle souhaite que le public le comprenne. Donc, elle s'entoure d'objets qui sont des objets liés au monde des arts. Vous avez la présence, effectivement, sur le canapé de la guitare, parce qu'elle est musicienne, parce qu'elle chante, parce qu'elle joue la comédie. D'ailleurs, les contemporains ont dit qu'elle jouait assez bien. Elle est elle-même artiste, et vous avez des cahiers à dessin et une gravure qui est posée sur la console à droite, qui est une gravure qui est empruntée à un traité de Pierre Gravé, qui avait été écrit par Pierre-Jean Mariette.
Ce que l'on appelle la glyptique.
Et la glyptique, voilà. Parce que Madame de Pompadour a décidé de protéger un des grands créateurs, justement, de camées et d'intailles de l'époque, qui s'appelle Jacques Guay, et qui va lui enseigner l'art de l'intaille, et elle va travailler donc en créant des bagues qui sont aujourd'hui conservées au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Et sur cette gravure, Latour est un petit peu courtisan parce qu'il ajoute Pompadour sculpsit, donc Pompadour a gravé, parce qu'effectivement, Madame de Pompadour s'est livrée aussi à l'art de la gravure, et quelques années avant que le pastel ne soit présenté, elle a fait imprimer un certain nombre d'estampes. Ce qui est très important aussi de noter, c'est la présence des livres. Ce sont des accessoires qui délivrent un message. Il y a quatre ouvrages. Le premier, c'est le Pastor Fido, qui est un ouvrage élégant du XVIIe siècle, qui raconte des amours et qui sont là peut-être justement pour évoquer l'amour qui a existé entre Madame de Pompadour et Louis XV.
Livre qui va inspirer des musiciens.
Tout à fait. Ensuite, vous avez La Henriade, qui est un ouvrage donc de Voltaire, qui est là pour mettre en valeur le règne d'Henri IV, avec une monarchie qui n'est pas la monarchie absolue, qui est une monarchie plus...
éclairée, plus éclairée, indifférente voilà. Aux religieux.
Exactement, et qui d'ailleurs va déplaire à l'Église de façon assez forte. Et elle souhaite peut-être montrer que Louis XV s'inscrit dans cette tradition d'une monarchie éclairée.
Peut-être aussi montrer qu'elle a participé à la réconciliation, si je puis dire, de Louis XV et de Voltaire.
Exactement. Et puis après, vous avez l'esprit des lois, qui a été interdit en 1751, justement en raison de ses idées trop perversives. Et enfin, l'encyclopédie, qui, elle aussi, avait été interdite parce que l'Église considérait qu'un certain nombre de notices étaient très en défaveur, justement, de l'Église.
Et Madame de Pompadour était intervenue pour Montesquieu, par exemple, pour que le livre ne soit plus interdit.
Tout à fait. Et elle est intervenue aussi pour l'encyclopédie, de façon à permettre la parution du tome qui est sur le pastel.
Financièrement, cette fois-ci.
Exactement. Et c'est pour ça que la présence de ces livres n'est pas le fait du hasard. Je pense que Madame de Pompadour demande clairement à Latour d'intégrer un certain nombre d'accessoires dans la composition pour permettre à ce message d'être compris par le plus grand nombre.
Alors, elle est une mécène. Elle a également fondé la manufacture de Sèvres, ou l'a développée en tout cas. Mais il y a aussi deux autres choses. Une sorte de map-monde. Elle est engagée dans les affaires du monde. Et je ne sais rien, par contre, d'un tableau qui est derrière elle.
Alors, le cadre où elle se situe est un cadre de complète invention. À partir de 1951, elle a quitté l'appartement des maîtresses, qui était un appartement situé au deuxième étage du corps central du château de Versailles, et qui était l'appartement réservé de manière traditionnelle donc, aux maîtresses de Louis XV. Et grâce au soutien du roi, donc, elle obtient un appartement au rez-de-chaussée du corps central, du côté nord. Et c'est à partir de ces années-là que Madame de Pompadour va montrer qu'elle pense, Voltaire disait, philosophiquement. Et le pastel va être une des preuves de cette modification de la perception de la marquise par le public.
Alors, ce pastel est extrêmement complexe quand on observe sa surface. Il y a des parties qui sont modifiées quasiment en cours de route, des repentirs, des recollages. Qu'est-ce qui se passe sur cette surface ?
Effectivement, Latour, et ça peut expliquer aussi le délai pris pour livrer l'œuvre, a été appelé à modifier certains aspects de sa composition. Par exemple, l'un des pieds avec cet escarpin a été gommé à l'aide d'un petit grattoir et il a repeint au pastel par-dessus en changeant peut-être l'échelle du pied ou en modifiant la position du pied. C'est aussi le cas de l'un des bras et de l'une des mains de la marquise qui a également connu une certaine modification parce qu'il a recollé une pièce de papier sur laquelle il a repeint le bras et la main dans une position différente de celle qu'il avait initialement créée pour l'œuvre d'ensemble.
Il y a un œil qui aurait été heurté ou percé.
Alors ça, c'est l'une des grandes découvertes. On voyait que l'œil présentait un trou. Et lorsque, donc en 2017, on a souhaité restaurer le pastel, on l'a décroché et on s'est rendu compte donc que, eh bien, au dos du pastel, la toile sur laquelle les feuilles de papier sont collées, avait été découpée, ainsi que le support de papier, pour tenter de recoller par l'arrière ce trou qui affectait l'œil. Et ça peut expliquer aussi, quand on est frappé autour du visage, vous avez des grandes zébrures bleues,
oui,
qui tranchent avec le reste du fond de la composition et qui sont peut-être le témoignage là de l'énervement de l'artiste qui perce son pastel et ensuite a beaucoup de difficultés à le reprendre pour pouvoir le livrer.
Artiste impulsif, en effet. Ce pastel extraordinaire va passer dans l'héritage de Madame de Pompadour, va aller à son frère. Comment s'est-il retrouvé au musée du Louvre?
Alors, on ne sait pas où il était présenté du vivant de Madame de Pompadour. À sa mort, il est à l'hôtel d'Evreux, qui est à l'actuel palais de l'Élysée. Et ensuite, il passe effectivement à son frère, le marquis de Marigny. Et à la mort du marquis de Marigny, il passe ensuite à l'Espinasse d'Arlay, qui est un amateur de la fin du XVIIIe siècle et qui, dans les toutes dernières années du siècle, va tenter de le vendre au musée, sans y parvenir, parce qu'il en demande une somme extrêmement importante, en prenant comme prix, finalement, celui que la tour aurait demandé à Madame de Pompadour, 24 000 livres, ce qui est une somme colossale pour l'époque. À titre de comparaison, Rigaud vend un portrait 300 livres, alors qu'il est un des portraitistes les plus célèbres du début du XVIIIe siècle. Et n'obtenant aucun intérêt de la part du musée, finalement, l'Espinasse d'Arlay décide de vendre aux enchères, et il est acheté par l'expert de la vente, Payet, pour la somme de 500 francs. En raison de son verre, essentiellement, parce qu'il est couvert d'un verre d'une taille tout à fait exceptionnelle pour le XVIIIe siècle. Techniquement, c'était extrêmement difficile d'avoir un verre de cette dimension. Alors, on dit que c'est la manufacture de Saint-Gobain qui aurait livré, effectivement, ce grand verre. Et lorsque l'expert Payet achète le portrait 500 francs, eh bien, il le propose à nouveau au Muséum central des arts. Et là, Vivant Denon dit « Oh, bah, pour ce prix-là, oui, nous l'achetons. » Non pas parce que c'est Madame de Pompadour, mais parce que le verre est exceptionnel.
Et c'est ainsi que le portrait de Madame de Pompadour est maintenant considéré comme un chef-d'œuvre absolu des portraits du XVIIIe siècle et qu'il a rejoint donc notre collection tout en manifestant ou en étant le manifeste de ce que Madame de Pompadour voulait être pour son époque, une femme engagée, une femme libre et une femme avancée dans les idées qui vont déterminer les siècles qui suivent.
L'important est que la légende existe.
Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Cet épisode a été consacré au portrait en pied de la marquise de Pompadour par Maurice Quentin de la Tour. Merci à notre invité, Xavier Salmon, directeur du département des arts graphiques du Musée du Louvre. Lecture des textes, Clotilde M. et Michel Esco. Réalisation Céline Terce. Prise de son Éric Boisset et Antoine Viossa. Coordination Camille Renard et Élodie Piel. Recherche les équipes du Musée du Louvre. Une série à retrouver sur le site et l'application Radio France.